Voilà, bonjour à tous. Vous avez beaucoup de patience. Mais quelle patience, c'est beau. Pour gravir encore une petite marche de l'escalier en cette journée thérésienne. Alors, j'aimerais vous parler de la dépression aujourd'hui. C'est un thème qui m'est cher vu que j'étais soignant avant d'être prêtre. J'étais infirmier dans les hôpitaux psychiatriques. J'ai beaucoup côtoyé la dépression. Par la suite, comme prêtre aussi, je me suis beaucoup intéressé au burn-out. Comment vous dites ici ? Burn-out ? Chez nous, on dit burn-out à l'anglaise. Voilà. Et à tout ce qui, finalement, touche à l'angoisse existentielle. Alors, permettez, sans trop faire de la médecine, de situer ce qu'est la dépression. Moi, j'y vois quatre sortes de dépression. C'est ce qu'on appelle d'abord la dépression exogène, c'est-à-dire dont il y a une cause à la dépression qu'on peut cibler. Ça peut être un deuil, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être... Il y a tellement de choses qui peuvent nous rendre dépressifs. Une autre sorte de dépression, c'est la dépression endogène, c'est-à-dire la personne, elle est dépressive, elle ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison pour cela, de raison apparente. C'est dû peut-être à la fragilité de son être psychique, de son système nerveux. Une troisième sorte de dépression, c'est surtout de l'ordre de la nervosité quand on en fait trop. Et ça, c'est le burn-out. Et le burn-out, en général, ça ne vient pas progressivement. C'est comme un tissu qui est tendu, tendu, tendu. Vous êtes en pleine forme. Et à un moment donné, crac, vous sentez votre système nerveux qui se déchire, vous plongez dans une sorte de fatigue et l'angoisse qui vient avec. Une quatrième sorte de dépression très courante aujourd'hui, puisque c'est le quart, voire plus, des dépressions, c'est ce qu'on appelle la dépression existentielle. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, tout va bien dans la vie, mais on ne sait pas pourquoi on vit. Il y a comme un vide intérieur, à quoi sert la vie. Une dépression qui apparaît souvent, parfois vers la quarantaine, vous savez, on a atteint un petit peu tous les objectifs, les rêves épuisés, on se dit que étant marié, tiens, ben, je suis toujours en face de la même femme, et puis ça commence à être, oui, et vice-versa. Comme prêtre, on se dit toujours ses paroissiens, toujours... on fait les mêmes choses, quoi. Vous voyez, il y a comme une intériorité qui manque. Ce que les pères du désert appellent l'acédie, autrement dit un ras-le-bol spirituel, il n'y a plus rien qui nous fait plaisir, quoi. Et c'est les moments de tentation, de danger, où on risque, quand le bateau commence à prendre l'eau, à se jeter dans la première bouée de sauvetage qui passe vers nous. On se dit « Ah, ça c'est la libération !» Puis à un moment donné, ben, la bouée elle se dégonfle et on est dans l'eau, quoi. Voilà. Ces quatre sortes de dépression, avec ce qu'il y a de commun à ces quatre, c'est l'angoisse. L'angoisse, une faiblesse de tout le système nerveux, n'a plus envie de rien faire, et cette angoisse qui monte, comme disait Thérèse, en fait, j'aimerais faire, mais je ne peux pas faire. Le dépressif dit cela, j'aurais tellement envie de me lever, mais je n'arrive plus à me lever, il y a comme une démotivation, c'est plus fort que soi. Alors, on peut se poser la question du pourquoi, et j'aimerais essentiellement m'intéresser à la dépression dite existentielle. Vous verrez qu'on va retrouver Thérèse dans tout ça. Cette dépression qui vient du fait, ben, on n'a plus goût à la vie, quoi. Il y a un médecin psychiatre qui est mort en 1987, le docteur Frankl, qui était juif et qui est allé dans les camps de concentration à Auschwitz durant la guerre. Il n'était pas croyant. Et il a fait une découverte assez étonnante. En observant les prisonniers, il a vu que les prisonniers qui avaient la foi, qui étaient attachés à une transcendance, qui avaient un but à la vie plus grand que ces mauvais traitements, que cette horreur dans laquelle ils baignaient, comme une famille qui les attend, et surtout Dieu, la religion, ils avaient comme quelque chose en eux qui faisait qu'ils s'accrochaient à la vie et qui allaient jusqu'au bout. Tandis que ceux qui n'avaient pas de sens au-delà de l'horreur se laissaient facilement mourir. Et lui qui était un psychothérapeute de type freudien, c'est-à-dire où on va chercher les causes de nos problèmes dans le passé infantile pour essayer de mettre le doigt sur les nœuds affectifs, de les dénouer, il s'est dit, cette approche de l'homme, de la psychothérapie, n'est pas suffisante. Il faut donner à l'homme un sens plus grand que le mal qu'il atteint, cet idéal plus grand, ce sens auquel il va pouvoir s'accrocher. Et il a lancé, par la suite il a été libéré des camps, ce qu'il a appelé la logothérapie, du grec logos qui veut dire sens, raison au-delà de ce qui me fait exister aujourd'hui, un idéal puissant auquel je peux m'accrocher. Et il a prôné essentiellement Dieu. La religion, quelle qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne ou autre, il dit c'est cela qui va aider le patient à faire un sursaut, va se passer comme un électrochoc spirituel qui fait que le patient va dire « je m'accroche à Dieu » ou « je m'accroche à ma famille » ou « je m'accroche à tel idéal », c'est ça qui va me faire vivre, c'est ça qui est beaucoup plus important que le mal qui m'atteint. Et c'est vrai que la découverte du docteur Frankl m'a beaucoup aidé dans ma pastorale, et je vous cite un petit exemple d'une maman, justement très chrétienne, 3 enfants, et qui était toujours dépressive, et qui un jour vient me trouver en me disant « vous savez, Père Joël, j'ai décidé de me suicider. Je viens vous dire au revoir. » Et je lui ai dit, bon, c'est votre choix, mais je veux quand même vous poser une question. Dans votre vie, qu'est-ce qui est plus important que votre déprime? Et elle me dit, c'est mon mari et mes 3 enfants. Et alors là, j'étais un petit peu osé et dur. Je la connaissais. Je lui ai dit, alors maintenant, imaginez, vous êtes dans le cercueil. Puis il y a vos enfants qui rentrent dans la chambre, ils vous voient, votre mari. Ça a été insupportable pour elle et elle a hurlé, voilà l'électrochoc si vous voulez. Non, pour eux je ne le ferai jamais. Et elle n'est jamais passée à l'acte parce qu'elle a trouvé que dans sa vie, il y avait une raison qui faisait qu'elle devait vivre et plus importante que sa maladie. Alors, vous voyez, c'est ce qui se passe aussi en pastoral quand on rencontre des gens, qu'on accompagne, c'est de les aider à chercher par eux-mêmes, il ne faut pas toujours donner la solution, par eux-mêmes qu'il y a un Dieu plus grand que ce qui leur arrive et qu'à ce Dieu-là, on peut s'y accrocher et lui faire confiance. Alors, Dr. Frankl explique notamment que la plupart des dépressions sont de type existentiel parce qu'il n'y a plus de transcendance. Et il dit, attention, il ne faut pas confondre le travail du psychologue et du prêtre. Le travail du psychologue est d'aller chercher les causes d'une déprime. Mais il faut aussi aller trouver le prêtre, dit-il. Ça, je le cite. Parce que le prêtre, si le psychologue a pour but de soigner la personne, voire de la guérir, le prêtre a pour but de sauver la personne. C'est très intéressant, c'est très complémentaire. Que veut dire sauver la personne? C'est d'aider la personne à éprouver Dieu comme un Dieu d'amour, comme un Dieu de force, comme un Dieu de paix, comme un Dieu fort. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre les deux approches. Les deux traitent une même maladie, mais par des chemins différents qui sont complémentaires. Et nous autres chrétiens aussi, tous, nous pouvons être les témoins par rapport à la maladie, par rapport à l'angoisse, de ce Dieu qui console, de ce Dieu qui ne juge pas, de ce Dieu qui marche avec, de ce Dieu qui est là, et notamment pour un prêtre à travers les sacrements, et je l'ai vécu souvent, le sacrement de la réconciliation, qui est un puissant sacrement de guérison. Ça, je vous le redis, parce que c'est là qu'on retrouve qu'il en est en profondeur, enfant de Dieu. Aimé de Dieu, et c'est pas de la théorie, ça marche. Je peux vous dire que ça marche. Et je me souviens de cette personne dépressive qui, après une confession, 6 mois après, est venue me dire « mes angoisses sont parties » à la suite de cette confession. Parce qu'elle s'est laissée prendre dans les bras du Père. Vous voyez, alors je dis pas que ça marche toujours comme ça. Dieu a un chemin pour chacun, mais il est là. Pour prendre une image, je dirais c'est comme un étang, vous savez, un étang transparent comme on en a chez nous dans les montagnes, ces petits lacs de montagne d'un bleu roi où le ciel se reflète, mais avec toujours beaucoup de vases au fond. Et si on secoue la vase, l'étang se trouble et le bleu disparaît. Alors je dirais l'approche du psychologue, c'est d'aller chercher dans la vase de l'étang des pièges, peut-être des morceaux de verre qu'on a jetés, ce qui pose problème à l'étang. Il va chercher au fond la cause du trouble. Tandis que le chrétien, le prêtre, a pour but de faire refléter sur l'étang le ciel, de mettre Dieu dans le cœur de la personne. Et ce sont deux approches différentes et qui sont complémentaires. Et je pense que la cause principale de cette angoisse existentielle, c'est que l'homme occidental est seul. On me dit souvent, il n'y a qu'à prendre le métro pour comprendre. Être au milieu d'une foule, on peut être terriblement seul et terriblement isolé et se demander à quoi sert la vie. Alors, la première réponse à la dépression existentielle et à tout type de dépression, puisque le point commun, c'est l'angoisse, c'est la fatigue, c'est la médecine, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur d'être accompagné par un psychologue, par un psychiatre quand c'est trop dur. Il faut être humble pour cela. Et la deuxième approche qui est complémentaire, c'est Jésus qui dit aux paralytiques qui attendent d'être jetés dans la piscine, Jean 5, pour guérir. À qui le paralytique répond à Jésus quand il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Eh bien, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau bouillonne. Je n'ai personne. Et c'est la réponse à l'angoisse existentielle. Je n'ai personne. Mais seulement en face de lui, il a Jésus. Sa vie va changer. Et Jésus, en face de quelqu'un qui souffre, ça doit être nous. Parce que Jésus se manifeste à travers notre corps, notre regard, nos gestes, à travers ce corps qui est l'Église. Et là, nous devons avoir, avec les personnes dépressives, beaucoup de patience et surtout de fidélité, parce que vous savez, une personne dépressive, c'est pas toujours agréable de l'écouter, alors on va quelque temps puis ensuite on l'oublie. Et c'est ça la patience, de toujours prouver par notre présence qu'on aime cette personne et qu'on veut l'accompagner. Jésus lui-même a vécu la dépression dans le jardin de l'agonie. Mon âme est triste à en mourir, n'est-ce pas ça la dépression? Mon âme est triste à en mourir. Que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus lui-même a vécu cette dépression qui l'a conduite à la résurrection. Et pour aider un dépressif, il faut toujours l'aider à croire qu'un jour il va s'en sortir, qu'il y aura quelque part une résurrection. Et le Père envoie l'ange pour le réconforter. Eh bien, nous sommes ces anges envoyés auprès des personnes qui souffrent pour les réconforter. Et voyez-vous, c'est même très spirituel, l'angoisse. Dans Luc, chapitre 13, verset 24, quand Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite si vous voulez être sauvé. » Et dans le grec, « étroite » veut dire aussi « angoisse ». Angoisse, qu'on pourrait traduire « Efforcez-vous d'entrer par la porte angoissée. » Donc l'angoisse est aussi chemin qui va vers la résurrection, est chemin d'humilité. Est chemin qui nous permet d'attirer Jésus sur nous, est chemin qui permet aussi d'être purifié dans notre vie pour rencontrer Jésus. Alors, Thérèse, on va quand même arriver à Thérèse maintenant. Thérèse a vécu, je dirais pas de burn-out. Thérèse a vécu deux sortes de dépression. La première qui était vraiment une dépression nerveuse, j'y reviendrai, et la deuxième qui était existentielle. C'est pourquoi elle est proche. Des gens qui font des dépressions, elle a quelque chose à leur dire, elle a quelque chose à nous dire. Alors, la première dépression, c'est liée à la dépression nerveuse. Ces blessures de Thérèse, on en a souvent parlé cette semaine, liées à la perte de sa maman, liées à ce sentiment d'être abandonné. Combien je rencontre de jeunes avec ces symptômes qu'on appelle abandonniques. C'est-à-dire qui sont toujours en recherche d'amour parce qu'ils sont issus parfois de familles brisées. Même des fois, je me suis rendu compte, dans de belles familles avec beaucoup d'enfants, même là, on trouve des enfants, comment peut-on avoir le temps de vraiment toujours prendre soin de tous, forcément, surtout dans un monde économique exigeant où il faut travailler. Dans tous les milieux, vous savez, je rencontre des jeunes avec ces symptômes abandonnés qui sont en quête d'amour, qui sont comme blessés, parce qu'on est dans un monde aussi fragile. On est dans un monde au bonheur immédiat. Et notre monde, ce qu'il y a de terrible, il nous dit que le bonheur existe, mais dans l'immédiateté. Le bonheur que le monde nous propose, c'est un bonheur qui vient satisfaire nos sens, nos sensations, nos besoins immédiats de nous sentir bien, pas d'être heureux. C'est la même chose. Se sentir bien et être heureux, c'est pas la même chose. Donc on trouve tout aujourd'hui pour être bien. Que ce soit le frigo sur lequel on fait main basse pour manger quelque chose lorsqu'on a un petit creux affectif, aussi le téléphone portable que l'on consulte continuellement, c'est ce qu'il faisait dire au pape François. Ah, si on consultait la Bible autant de fois qu'on consulte le téléphone portable, peut-être qu'on y trouverait aussi des réponses qui nous aideraient. Pensons-y. Vous voyez, ça n'a pas trop de tenue dans le métro de consulter trop souvent la Bible. Il faut faire comme tout le monde quand même, téléphone portable. Mais l'astuce, on peut avoir la Bible sur le téléphone portable. Et alors là, on n'est pas différent. Et puis on se nourrit de la parole de Dieu, à y penser. Alors voilà, donc, dans ces moments-là de vide, eh bien, on a tout ce qu'il faut. Les pubs aussi vous disent que vous pouvez trouver le bonheur en ayant le dernier iPhone. Je crois que c'est le 8, hein. Mais il est hyper cher. Bon, on dit que vous allez être heureux si finalement vous portez telle marque de basket, tel parfum, tel... Enfin, voilà, donc... Et c'est vrai que ça nous fait du bien d'acheter une belle voiture, d'aller en vacances. C'est pas négligeable, là. C'est pas négligeable. Mais c'est un bien qui nous fait du bien dans l'immédiat. Et puis quand il faut recommencer le travail après 2 semaines au Club Med, c'est un petit peu dur. Puis aussi, à quoi ça sert d'aller bosser tous les jours? Mais franchement, on était mieux dans le Club Med, vous voyez? Mais c'est des petits biens qui nous font du bien, mais qui nous laissent le cœur vide parce que ces biens-là, on doit toujours les refaire. Mais ils ont l'avantage de nous dire, l'être humain, il n'est pas seulement fait que pour se faire du bien, que pour ces petits biens dans l'immédiat qui passent. Et il y a certains biens que l'on nous propose qui sont voraces par la suite de biens encore plus forts. Et ça peut être un cercle vicieux. Ça peut nous rendre dépendants de tant de choses qui deviennent voraces, des biens qui nous dévorent finalement et qui nous laissent en rade, qui nous laissent le cœur vide. Tandis que le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend de la fidélité. Ça demande qu'on prenne le temps pour Dieu aussi, qu'on le découvre. Ça prend le temps de la patience. Ce bonheur-là, d'abord, il se donne avant qu'il se reçoit. C'est terrible. C'est terrible. Ça va à l'encontre. C'est ce que dit le pape François en parlant de l'amour. Il dit « Aimer, ce n'est pas seulement... éprouver du bien en face de l'autre, c'est vouloir lui faire du bien. » Ça, c'est pas très naturel, les pubs n'en parlent jamais. Vouloir faire du bien à l'autre, et c'est encore mieux au nom de Jésus, avec Jésus, voyez ? Et là, petit à petit, on va susciter chez l'autre le bien à faire aussi. Et puis finalement, il va nous faire du bien, voyez, et ça devient comme une union de bien, et c'est là que nous entrons petit à petit dans un bonheur qu'on ne doit pas toujours refaire, qui demande toujours de l'effort, mais un bonheur qui grandit et qui nous remplit le cœur surtout, et qui nous remplit le cœur, et il y a en nous une force extraordinaire. Lorsque tous les petits biens s'écroulent, il nous reste l'essentiel. Cet enfant de lumière dont je vous parlais hier, il nous reste l'essentiel. Alors Thérèse a vécu cette situation d'abandonnique et qui va la plonger dans une véritable dépression nerveuse avec des symptômes types que l'on peut décrire sous forme même de convulsions, de délire, d'angoisse tellement forte que cette angoisse va même conduire Thérèse à la mort. À un moment donné, le médecin qui la suit dit « Elle nous échappe, j'arrive plus à la rattraper. » Thérèse est vraiment sous le choc d'une dépression nerveuse. Jésus est là, bien sûr. Mais voyez, par cette dépression, il est en train de purifier en elle tout ce qui est trop attachement affectif, tout ce qui est trop ventouse affective, tout ce qui est trop captation sur elle, parce qu'elle souffre de cet état abandonnique. Et vous voyez, on peut souffrir, on peut être dans la dépression puis être saint. C'est génial, ça. On peut être dans la dépression, on peut être des ventouses affectives puis être saint. Parce qu'on sait qu'on est comme ça, mais on ne peut pas changer. C'est ce qui fait dire à Thérèse dans la petite voix, « Me changer, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis. » Ça, c'est un passage. Après, on va plus loin. On peut être saint dans un hôpital psychiatrique, et je peux vous dire, c'est pas en contradiction avec la sainteté d'être malade. Au contraire. Le dépressif qui dit « Je peux pas plus. Je fais tout ce que je veux, mais je peux pas plus. » Et le dépressif qui aime Jésus. Dépressif qui fait ce qu'il peut aussi pour prier. Vous voyez, il est saint. Parce que c'est une croix énorme. Mais je n'abandonne pas Jésus. Je m'unis à Jésus à travers ce qui m'est insupportable. C'est ça la sainteté. Même si je suis même parfois insupportable pour mon entourage, moi, je veux aimer Jésus. Je ne veux pas abandonner Jésus. Même si j'en suis toujours là, même si l'angoisse me dévore. Et c'est pourquoi Thérèse, voyez, elle va retrouver la paix par le sourire de Marie. Ça montre que Dieu ne nous abandonne pas, mais sensiblement, c'est horrible. Parce que quand on est dépressif et angoissé, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais voyez, ça c'est une impression, c'est au niveau des sens, des sentiments. Thérèse, elle ne sentait plus Dieu dans sa période dépressive, voyez. Mais sa foi lui disait, Dieu est là. Et Dieu répond par le sourire de la Vierge, par la conversion de la nuit de Noël 86, je ne veux pas y revenir là-dessus. Thérèse sortira de sa dépression nerveuse avec toute cette symptomatologie que l'on retrouve chez les grands dépressifs, et elle restera toujours fragile, dépressive, mais avec une foi en Jésus qui va grandir, ce petit germe de la résurrection qui l'habite, ce petit germe de lumière. Et Thérèse ne connaîtra plus ses symptômes. Elle connaîtra l'angoisse, bien sûr, mais dans la seconde dépression, j'y arrive maintenant, qui porte aussi ces symptômes-là, Thérèse ne va plus plonger. Ce qui faisait dire au curé d'Ars que dans l'angoisse, dans la dépression, le saint est quelqu'un qui est au milieu d'une mer agitée, mais qui a grippé de tout son cœur, à ce grand rocher planté au cœur de la mer qui est Dieu. Mais les vagues éclaboussent, l'angoisse est là. Mais je ne plonge plus parce que la foi est devenue tellement grande que je ne plonge plus, mais la souffrance est toujours là. Vous saisissez cela? On peut être dépressif et être des saints. Alors dans la seconde dépression, venons-en maintenant à celle-ci, qui s'effondre, qui s'abat sur Thérèse dans les 18 derniers mois de sa vie, vous savez, elle est atteinte par la tuberculose qui va la dévorer de l'intérieur, et elle va en même temps traverser cette nuit terrible de l'absence de Dieu. Alors, bien sûr que les mystiques l'expliquent comme les purifications passives et tout, bon, mais je ne veux pas entrer dans cette description puisque je veux m'arrêter aux symptômes que sont la tentation du désespoir, l'angoisse. Ces terribles angoisses qui vont miner Thérèse, lui donnant l'impression que Dieu l'a complètement abandonnée. Et en plus, ce que Thérèse va expérimenter, c'est qu'à travers cette angoisse, elle va vivre la dépression existentielle par l'absence de Dieu. Elle va sentir que son cœur est complètement vide, si vous voulez, ses sens, son intelligence vont expérimenter l'absence totale de Dieu. C'est-à-dire donc l'horreur dans les sens, l'angoisse et l'absence de Dieu. Et Thérèse comprendra de l'intérieur que si elle est en train de passer par cette angoisse du vide, c'est parce qu'il y a une mission là derrière. La mission de partager cette angoisse avec tous les angoissés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec tous ceux qui traversent une dépression existentielle, avec tous ceux qui ont l'impression que leur vie n'a plus de sens. Thérèse les rejoint. Thérèse évangélise tous ceux et celles qui, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, se disent qu'ils ont raté leur vie, ont ces impressions de toujours la même chose, même à un niveau plus petit. Thérèse est là, il faut faire appel à Thérèse. Thérèse, t'as connu ça, t'as connu ce vide existentiel. Voyez ce qu'elle dit. « Oh, je sens que je me découragerais si je n'avais pas la foi. Je pleurerais trop si je vous racontais tout de suite mes peines. Et je suis si oppressée que j'étoufferais certainement. » C'est fort, hein, c'est fort. Alors Thérèse nous dit qu'elle comprend sa mission, qu'à travers cette dépression, elle partage tous ceux qui sont vides, notamment, dit-elle, les plus grands pécheurs qui refusent Dieu, les grands athées, dit-elle, qui refusent Dieu. Et elle dit ceci: « Mais Seigneur, votre enfant vous demande pardon pour tous ses frères. » Voyez, elle sent combien derrière ce refus de Dieu, il y a le péché, il y a la révolte. Et elle va partager avec eux le pain de l'amertume et de la douleur, dit-elle. Et je demande pardon pour mes frères. C'est extraordinaire, vous savez. Thérèse a pour mission aujourd'hui d'aller rejoindre les plus éloignés de Dieu. Autant les pauvres, les petits, mais surtout les pécheurs. Dont la détresse est immense. Dont la détresse est immense. Thérèse est tellement angoissée qu'elle aura même par moments, tenez-vous bien, des tentations de suicide. Tentations de suicide. Elle dit ceci: elle est prise de terribles douleurs dans les intestins. Elle a le ventre dur comme une pierre. Les fonctions ne se font plus qu'avec d'affreuses souffrances. Elle conjure que l'on prie pour elle. C'est à perdre la raison, dit-elle. Elle demande qu'on ne laisse pas s'apporter les médicaments poison pour l'usage externe et conseille qu'on n'en laisse jamais près des malades qui souffriraient les mêmes tortures. Toujours pour ce motif que ça en perdre la raison et qu'on aurait la tentation de les avaler tous pour se donner la mort. Que d'ailleurs, si elle n'avait pas eu la foi, elle n'aurait pas hésité un seul instant à se donner la mort. Et là, je la cite: « Ah, si je n'avais pas la foi, je ne pourrais jamais supporter tant de souffrances. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas davantage parmi les athées qui se donnent la mort. » Voilà qui Thérèse va rejoindre. Et elle sent en elle ces mots: « Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non pas ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, celle du néant. » Thérèse expérimente ce que Sartre écrit dans la nausée, cette nausée, ce dégoût de la vie. Et là, j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse, celle du suicide. Ben, voyez, quelqu'un qui met fin à ses jours, c'est cela, c'est cela. Mettre fin à ses jours, vous savez, ce n'est pas chercher la mort, c'est vouloir ne plus vivre une souffrance aussi pesante. Et j'entends toujours cette jeune fille qui s'était jetée dans un fleuve et qui a été sauvée, je ne sais plus trop comment, miraculeusement. L'eau était tellement glacée que naturellement, elle retourne vers la berge. Et en venant me voir, elle me disait, je l'entends toujours, « Mais vous savez, je ne voulais pas mourir. » Je voulais juste être mieux. Voyez, le suicide, c'est pas un choix où on décide de mourir. La souffrance est devenue tellement intolérable qu'on va vouloir la suivre. Ça veut dire que l'amour dans le cœur n'est pas éteint. C'est Blaise Pascal, le grand philosophe, qui disait « Même ceux qui se pendent cherchent à être heureux. » Et voyez pourquoi le Seigneur accueille même les suicidés. Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est la paix. Par de mauvais chemins, par des chemins qui sont faux, mais ils cherchent la paix, et Dieu est la paix. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le supplice, la persécution, le danger, la mort? Non, car en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, dit saint Paul, grâce à celui qui nous a aimés. Le suicide, ce qui pousse au suicide, c'est la persécution. On est comme persécutée à l'intérieur. Cette angoisse existentielle, et Thérèse est là. Elle est là, à la porte de ceux qui se suicident, pour les rejoindre, pour les prendre dans ses bras et leur dire: « Mon petit, crois à l'amour. Crois à l'amour. Dis oui à la miséricorde. » Et là, nos prières sont efficaces, parce qu'elles vont encourager celui qui est parti, même si ça fait 20 ans, à dire oui à la misère. Il ne faut jamais désespérer, dit l'Église, des suicidés, car Dieu leur les rejoindra par des chemins que seul lui connaît. Il faut avoir beaucoup d'espérance, vous savez. Dieu est vraiment amour et miséricorde. Je me souviens toujours, Marthe Robin, la grande stigmatisée de Châteauneuf-de-Galaure, c'était des jeunes qui avaient fait la foire toute la nuit et ils ont eu un accident, ils sont tous morts, 4 jeunes. Accident de voiture, ils avaient trop bu. Et les parents ont dit à Marthe Robin, mais vous savez, nos enfants, ils n'allaient jamais à l'église, on ne sait pas s'ils croyaient en Dieu et tout. Et Marthe Robin leur a répondu, ils sont sauvés. Parce que quand le Seigneur, dans la nuit de la mort, leur dit, veux-tu venir avec moi? En général, ils disent tous oui. Ils disent tous oui. C'est beau. Thérèse est là. Et je vous raconte ce petit événement du Canada, parce que j'ai la grâce de beaucoup voyager, qu'on m'a rapporté. C'est des jeunes aussi qui ont passé la nuit à boire, enfin bon, ils sont fracassés contre un arbre, 4 jeunes. 3 étaient morts, et l'un des petits jeunes vivait encore. Et le policier, qui était complètement incroyant, voyait que ce petit jeune remuait les lèvres, et il s'y approche et il entend ceci. Ma grand-mère m'a dit que si je disais tous les jours un je vous salue, Marie serait là à l'heure de ma mort. Ma grand-mère m'a dit, et il répétait, et il disait, mais je la vois pas. Pourtant elle m'a dit, Marie serait là à l'heure de ta mort. Tiens, je ne la vois pas. Et soudainement il ouvre de grands yeux, son visage s'éblouit, et il dit, ah, elle est là, elle vient, et sur ce il meurt, et le policier se convertit. Voyez la prière des grands-mamans. On croit toujours qu'on veut faire changer nos jeunes comme ça par un claquement de doigts. Il faut prier. Pour avoir de la patience, il faut envoyer Thérèse. Et il y a toujours le moment, avant, pendant ou après la mort, qui reste un chemin de conversion où Dieu nous attend pour nous dire « Je t'aime. Peux-tu venir avec moi ?» Sœur Faustine, Sainte Faustine, qui dit aussi cela, que dans la mort, ce moment qui nous échappe, Jésus évangélise, annonce la bonne nouvelle à celui qui part. La bonne nouvelle de l'évangile. Le Seigneur t'aime, convertis-toi, dis oui à l'amour. Voyez, c'est logique si Dieu est cette maman. Alors voilà, pour ces petits témoignages. Alors Thérèse souffre jusqu'à la certitude que Dieu n'est plus là. Elle dira cette belle parole, je chante simplement ce que je veux croire dans c'est pas naturel la foi. Le vide est là et elle dit « Je crois, je crois, je crois, je crois. » Mon âme, malgré ses ténèbres, est dans une paix étonnante. Ma petite barque est remise à flot. Ah, à la fois des ténèbres, mais dans le fond, je suis dans la paix. Alors je terminerai par cette question. Quels sont les conseils que Thérèse veut bien donner à des dépressifs d'aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, c'est la petite voix. C'est quoi la petite voix? Je vous le rappelle, quand Thérèse dit « Me grandir, c'est impossible ». Vous savez, il y a des moments dans la vie, quand on dit à un dépressif « Mais allez, fais un effort », c'est surtout ça, pas ça qu'il faut lui dire, vous l'enfoncez, parce que vous n'êtes pas à sa place. Alors, Thérèse dit au dépressif la même chose, « Me grandir, c'est impossible ». Je ne peux pas faire des efforts, c'est tellement lourd, c'est tellement horrible, je ne peux pas faire mes efforts. Deuxième point de la petite voix, je dois m'accueillir tel que je suis, je dois m'accepter avec mes angoisses, ce regard des autres qui me jugent, leur incompréhension, leurs paroles blessantes, leur incompétence, leur ironie. Je dois accepter de devoir arrêter mon travail, de me faire soigner, de prendre soin de moi, accepter aussi mes révoltes, mes colères, le silence de Dieu, accepter de ne pas comprendre. Ça c'est important, vous savez, de s'accepter, me grandir, c'est impossible. Me guérir, c'est impossible. Aller plus loin, c'est impossible. Me lever ce matin, vous savez, moi j'ai travaillé dans les hôpitaux psychiatriques, j'en sais quelque chose. Me lever le matin, c'est pas possible. Je n'arrive même pas à mettre ma chaussette le matin, à mettre un pull, c'est trop dur, c'est trop lourd. J'ai connu tout ça. Me grandir, c'est impossible. Deuxième point de la petite voix, faut pas se raisonner. Se laisser manger par des impressions négatives, surtout par le sentiment de culpabilité. Ben, simplement, Seigneur, je t'offre aujourd'hui ce que je peux faire. Je t'offre cette image décevante de moi-même, teintée de toutes mes amertumes. J'essaie de lever mon petit pied ce matin, j'arrive même pas. Voyez combien la petite voix aide. Je fais le possible, le Seigneur fera l'impossible. Toute maladie est union aux souffrances de Jésus. Je sauve le monde avec Jésus en allant jusqu'au bout de mon possible pour laisser à Dieu l'impossible. Dans l'esprit de la petite voix, c'est aussi important que la personne dépressive fasse ce qu'elle peut. Je pourrais tout le temps parler de ce qui ne va pas, mais je peux dire, ben, Seigneur, je fais l'effort de ne pas parler de cette angoisse qui m'habite. D'essayer d'esquisser un petit sourire à ceux qui viennent me visiter, ceux qui m'entourent, c'est possible. C'est possible, même quand je suis au fond du gouffre, c'est possible. Ces petites choses que Thérèse nous apprend, esquisser un sourire, ne pas me plaindre, c'est pour toi Jésus. Faire ce que je peux aujourd'hui, aller jusqu'au bout de mon possible, me laisser soigner par la médecine. Et puis, ce petit sourire va devenir un poids inouï, inouï, inouï dans le cœur de Jésus. Alors que moi, je peux sourire toute la journée, ça n'aura pas le même poids parce que je suis en pleine forme. Sentez ça. Vous savez ce qui a construit l'Église pendant 2000 ans? Ce sont des gestes comme l'obole de la veuve. Vous savez, c'est dans l'Évangile. Elle a mis tout ce qu'elle avait. Petit geste d'amour, d'amour pur, inconnu. Pourtant, ce petit geste a traversé 2000 ans, christianisme. Ce qui a bâti l'Église, ce ne sont pas des basiliques, ce ne sont pas les magnifiques cathédrales du Moyen-Âge, ce n'est même pas le Vatican. Ce qui a bâti l'Église et fait que l'Église est encore debout aujourd'hui, c'est ces petits gestes d'amour offerts souvent dans des détresses que seul Dieu connaît. Voilà ce qui bâtit l'Église. Le reste, même cette basilique, un jour elle va disparaître. Enfin, pas trop tôt j'espère, mais tout ça c'est secondaire. Ce sont des instruments, ce sont des moyens. Mais ce qui a valeur d'éternité, ce sont ces tout petits gestes. C'est un sourire esquissé sur les lèvres d'une personne dépressive, parce qu'elle le fait pour Jésus. C'est ce petit pas du matin si difficile, alors que moi j'ai couru 10 kilomètres déjà. Voyez, c'est cela qu'il faut dire avec la petite voix. Voyez ce que dit Thérèse par exemple, quelle grâce le matin quand nous ne sentons aucun courage, aucune force pour pratiquer la vertu. C'est alors le moment de mettre la cognée à la racine de l'arbre. C'est alors le moment difficile. On est tenté de tout laisser là, mais dans un amour pas senti. Tout est réparé. Et au-delà, Jésus sourit. Il nous aide sans en avoir l'air. L'amour peut tout faire, les choses même les plus impossibles. Jésus ne regarde pas autant à la grandeur des actions ni même à leurs difficultés qu'à l'amour que l'on met à faire ses actes. Ça, c'est possible. Tout est dit. Mettre la cognée, même sans courage, par amour, sans regarder le résultat. Et puis quand ça va mieux dans l'évolution, se demander aussi les causes de ma dépression qui peuvent être aussi liées à mon éloignement de Dieu, à mon péché aussi. À force d'être efficace et de marcher sur les pieds des autres, je remarque même plus que je marche sur les pieds des autres. Vous savez, il y a des fois des gens très très efficaces, ils arrivent au bout de la journée et ils se disent « J'ai descendu un travail immense !» Oui, mais est-ce que tu t'es arrêté devant les personnes? Si tu es responsable de je sais pas où, de je sais pas quoi, c'est bien. Tu as fait du bon boulot. Mais est-ce que tu t'es arrêté devant la personne qui balaye le couloir, devant le petit, la petite, qui a nettoyé tes toilettes, qui te les rend agréables? Ouais, ces choses-là, on ne voit même plus. Tellement parfois, on est pris dans l'efficacité et on peut rajouter toutes sortes d'exemples. Je suis peut-être efficace, mais est-ce que je donne la vie? Et ça, c'est tellement important dans les familles, vous savez. Il y a des fois des gens qui font tous les jours les mêmes gestes et ils se demandent à quoi ils servent, parce que ces petits gestes sont tellement petits et tellement importants qu'on ne les reconnaît même plus. Voilà Thérèse qui traverse ces deux sortes de dépression, nerveuse, existentielle, elle est là. Elle est là. Elle les a vécues toutes les deux. Elle nous donne des petits moyens pour ceux qui connaissent la dépression, qui l'ont connue, et pour nous qui approchons des dépressifs pour ne pas les enfoncer davantage dans le gouffre, des petits moyens pour les vivre, pour les traverser, pour croire en la résurrection, des petits moyens pour lever son petit pied, comme dit Thérèse, sur la première marche, même si j'arrive même pas sur la première marche. Mais tout cela construit l'Église. Construit l'Église. Parce que ces petits gestes-là n'apportent rien à personne. Ils sont gratuits. Et c'est la gratuité de l'amour qui bâtit l'Église et qui continuera à la bâtir. Moi, je vous recommande ce petit livre que j'ai écrit avec Thérèse, Angoisse, dépression, culpabilité, un chemin d'espérance avec Thérèse, ou Quand nos blessures diffusent la lumière, que vous trouverez en librairie maintenant puisqu'ils sont épuisés ici.